rapidito y se terminan. Ven y baila ahora porque el mambo está sabroso, está rico y talencioso y te alegra bien la vida. Baila mi mambo que
esto se acaba ya.
Se acaba.
El mambo se acaba.
Se acaba.
Esto se acaba ya.
Se acaba,
el mambo,
baby.
Se acaba.
Te lo dije, nena.
Esto se acaba ya.
Ven y baila el mambo.
Se acaba.
Ven y goza el mambo.
Esto se acaba ya. El mambo se acaba.
Choisis Radio France Internationale pour vous informer. Il est 6h ici à Paris. Et 4h en temps universel. Bonjour Fabrice Légrier.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Le journal international et à la une, ces nouvelles frappes de part et d'autre entre les États-Unis et l'Iran ces dernières heures.
Oui, l'armée américaine dit avoir visé des dizaines de cibles sur le sol iranien. De son côté, Téhéran affirme avoir répliqué en frappant des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Le protocole d'accord signé le 17 juin semble donc bien loin ce matin. Et au cœur de ce regain de tension, le trait stratégique des Trois d'Hormuz et les désaccords entre les deux camps sur ce dossier, l'avis d'un spécialiste dans un instant. En Syrie, la séance inaugurale du nouveau Parlement s'est tenue hier, 19 mois après la chute de Bachar el-Assad. 206 députés ont prêté serment, ambiance et réaction entre espoir et inquiétude. Reportage à venir à Damas. Nous serons aussi au Mali, où un convoi de l'armée est tombé dans une embuscade hier, embuscade tendue par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. L'actualité, c'est aussi la France confrontée à un nouvel incendie ce matin, cette fois dans la forêt de Fontainebleau au sud-est de Paris. Des incendies et des records de chaleur comme aux États-Unis ou encore en Corée du Sud, avec pour la première fois une alerte maximale qui a été déclenchée. Tension très vive donc ces dernières heures encore entre les États-Unis et l'Iran. L'armée américaine affirme avoir mené une série de frappes contre des dizaines de cibles en de multiples lieux sur le sol iranien. Des bombardements qui ont notamment fait au moins un mort et quatre blessés dans la ville de Mashhad dans le sud-ouest du pays. De leur côté, les gardiens de la révolution disent avoir frappé dans la nuit des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn ainsi qu'au Koweït. Washington et Téhéran s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve. Des efforts diplomatiques réduits à néant, affirment les Iraniens. Et au cœur de ces tensions, une fois encore, le détroit d'Hormuz. Téhéran affirme qu'il est fermé depuis hier. Les États-Unis, eux, disent mener des frappes dans le secteur afin d'y garantir la liberté de navigation. L'avenir du détroit, qui est au cœur du protocole d'accord signé le 17 juin, selon Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran, ce sont justement les désaccords sur ce dossier qui expliquent ce regain de tension. On l'écoute.
On savait, ces 14 points d'accord, ils portent sur tellement de sujets, il a fallu avoir un accord. Et forcément, dans ce type de protocole d'accord, il y a différentes interprétations possibles. L'interprétation iranienne, c'est que, ok, on rouvre le trafic dans le détroit d'Hormuz, mais on veut garder le contrôle. C'est pas des points anodins. Ils ont déjà une énorme méfiance vis-à-vis de Donald Trump. Donc pour eux, c'est très très important de garder des moyens de pression sur les États-Unis et notamment le contrôle du détroit d'Hormuz. Donc effectivement, pour eux, c'est un point quasiment vital. D'un autre côté, du côté américain, on le comprend aussi. Pour eux, c'est on revient à la situation d'avant la guerre. Donc je pense qu'il y a deux interprétations différentes. Je pense que c'est ça la base de ces tensions et c'est ça qui a conduit à ces affrontements.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman et conséquences de ce regain des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, forte hausse des cours du pétrole de près de 4% ce matin. En Syrie, 19 mois après la chute de Bachar el-Assad, la première séance inaugurale du nouveau Parlement qui s'est tenue hier, 206 députés ont prêté serment en présence du président Ahmed el-Sharaa lors d'une séance très symbolique. Pour l'occasion, un important dispositif de sécurité a été déployé aux abords de l'Assemblée du Peuple dans le centre de Damas et plusieurs rues commerçantes ont été fermées. Si certains Syriens veulent croire à une nouvelle page politique, d'autres dénoncent déjà les conséquences très concrètes de cette journée. Reportage à Damas, Mohamed Erami.
Autour du Parlement, les rues sont quadrillées par les forces de sécurité. Les véhicules sont tenus à distance, les passants ralentissent pour tenter d'apercevoir les nouveaux députés. Beaucoup observent la scène avec curiosité. Pour certains, cette première séance représente surtout l'espoir d'en finir avec les pratiques de l'ancien régime.
J'espère qu'ils ne seront pas corrompus comme les anciens parlementaires sous les Assad. À l'époque, ils achetaient la voix des plus démunis contre quelques dollars. J'espère que le nouveau Parlement sera vraiment à la hauteur.
Mais à quelques dizaines de mètres de l'hémicycle, l'ambiance est tout autre. Pour sécuriser le quartier, une partie de la grande rue commerçante est restée fermée toute la journée. Rideaux baissés, clients absents, les commerçants dénoncent une décision imposée au dernier moment.
Ils ont fait fermer tous les commerces autour du Parlement. Je suis arrivé ce matin, comme d'habitude, et on est venu me dire que je devais fermer ma boutique. Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai 13 employés qui sont sur le carreau aujourd'hui. Comment je vais les payer? J'ai dû les dispatcher dans d'autres magasins ailleurs à Damas. Franchement, cette situation n'est pas normale.
Entre espoir de tourner définitivement la page du régime Assad et frustration liée au quotidien, cette première journée du nouveau Parlement illustre déjà les attentes immenses qui pèsent sur les nouvelles autorités syriennes. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Au Mali, un important convoi de l'armée est tombé dans une embuscade hier, embuscade tendue par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. L'attaque s'est déroulée à environ 350 km de la capitale malienne. Bilan, plusieurs victimes et des camions détruits. Les explications de notre correspondant régional, Serge Daniel.
Composé de vivres, de camions citernes, d'armes et de munitions destinées aux troupes, de longs convois militaires quittent Bamako vendredi pour le centre du Mali. Ils prennent la principale route menant à l'intérieur du pays. Le convoi destiné au camp militaire malien situé au sud de la localité de Sévaré arrive à bon port. Le second convoi arrive à Ségou, 240 km au nord de la capitale, après avoir assuré le ravitaillement des camps militaires de Fana et de Dioula. Il prend la direction de Markala et de Nyono. Ce dimanche, entre cette dernière localité et la ville de Nampala, des coups de feu éclatent. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda sont en embuscade. Des camions militaires ont été brûlés, des armements emportés, des militaires tués, d'autres blessés et transportés un peu plus tard dans un centre de santé. Les djihadistes avaient décrété dans la région un blocus dans certaines localités. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Dans l'actualité également, cet incendie en France, aux portes de Paris, le feu considéré d'une ampleur exceptionnelle, s'est déclaré hier soir dans la forêt de Fontainebleau, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale, et la fumée est visible à 20 kilomètres de distance. Les flammes ont déjà parcouru 800 hectares, 400 pompiers sont mobilisés. Ils sont épaulés par deux hélicoptères bombardiers d'eau, mais aussi, et c'est une première en région parisienne, par deux avions qui ont dispersé du produit retardant. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place ce matin. Un feu qui perturbe les trafics routiers et ferroviaires. Autre foyer actif, toujours en France, dans le Maine-et-Loire, cette fois, détruisant près de 300 hectares de végétation, ainsi que deux habitations hier. Tandis qu'en Espagne, le bilan de l'incendie en Andalousie s'est alourdi ces dernières heures. Il fait désormais état de 13 morts. Une Britannique de 93 ans a succombé à ses blessures. Le feu qui s'était déclaré jeudi dernier est désormais stabilisé. Des incendies liés notamment au niveau de sécheresse très élevé en raison de la canicule. En France, 37 départements sont en vigilance rouge, le niveau le plus élevé. Alerte maximale également pour forte chaleur en Corée du Sud. Et c'est la première fois que cette alerte est émise, avec des prévisions à plus de 39 degrés dans certaines zones. Aux États-Unis, des records ont également été battus, notamment dans le Montana et dans l'Utah, avec par exemple 43 degrés enregistrés à Salt Lake City. Les fans de football et les professionnels du milieu durement impactés en Cisjordanie occupée. La Ligue de football palestinienne est suspendue depuis le 7 octobre 2023. En parallèle de l'offensive israélienne à Gaza, les opérations de l'armée israélienne se sont aussi multipliées. Conséquence, des déplacements rendus extrêmement difficiles à cause des checkpoints ou encore des stades désertés par peur de croiser des soldats. Reportage à Hébron en Cisjordanie occupée, signé Alice Moreno.
Sur la pelouse, des adolescents disputent un match amical. Les tribunes sont quasi vides. Laïs est un des rares spectateurs. Il décrit le foot comme une échappatoire dans son quotidien sous occupation.
Avant le 7 octobre, je venais ici chaque jour pour assister aux matchs. Mais depuis, il n'y a eu que très peu de matchs amicaux. Comme celui qui se déroule aujourd'hui. Dès qu'il y en a, comme aujourd'hui, je reviens.
Ibrahim Swerki est entraîneur. Il dénonce la multiplication des points de contrôle de l'armée israélienne en Cisjordanie.
Le nombre de checkpoints a largement augmenté. Ça peut être très difficile de circuler et d'organiser des rencontres sportives. Ça nous a beaucoup affectés. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, on se retrouve coincé sur la route ou dérouté. Ça touche même le public.
Sur le terrain, Ahmed arbitre le jeu, assermenté pour des compétitions internationales. Il a été peu à peu évincé des sélections à l'étranger, faute d'entraînement régulier en Cisjordanie.
Dans les stades, les soldats arrêtent parfois les matchs, repartent, reviennent. On finit par partir pour des questions de sécurité. Avant le 7 octobre, je venais de passer professionnel. Je m'étais préparé des années pour devenir arbitre international. Ils ont tué tous mes rêves.
L'armée israélienne assure de son côté n'avoir interrompu aucun match ces derniers mois. Mais les joueurs palestiniens insistent, l'occupation s'immisce jusque dans leurs loisirs. Alice Moreno, de retour d'Hébron, RFI.
L'affaire était devenue le symbole des dysfonctionnements de la justice française. L'affaire Liana, cette collégienne de 11 ans retrouvée morte début juin dans le Gers. Le principal suspect faisait déjà l'objet de plusieurs plaintes et signalements pour viol sur mineur, mais il n'avait jamais été entendu ou placé en garde à vue. C'est pour cela que le ministre de la Justice avait donné jusqu'à mi-juillet au service d'enquête pour réexaminer les milliers de dossiers qui portent sur des affaires impliquant des enfants. Gérald Darmanin avait demandé aux magistrats d'agir vite. Jeanne d'Anglejean.
Oui, c'était un travail colossal pour les services d'enquête qui ont finalement dû réexaminer 88 000 plaintes pour violences sexuelles contre les enfants. Un chiffre bien au-delà des 70 000 évoqués au lendemain du meurtre de Liana. Concrètement, les services d'enquête ont fouillé dans leur placard. L'idée n'était pas de refaire toutes les procédures ou de mettre en pause les autres dossiers, mais de regarder si une autre plainte n'a pas été traitée. Une plainte comme celle de Toulouse, déposée en août 2025 contre le principal suspect du meurtre de Liana, 9 mois avant sa mort. Pour le Conseil supérieur de la magistrature, cette demande de Gérald Darmanin est un discrédit jeté sur des milliers de magistrats. De son côté, le ministre de la Justice assure qu'il rendra public dans les 15 jours le rapport de l'inspection en alertant. Des sanctions sont possibles et prévues. Si besoin, il ira jusqu'à la révocation des professionnels en poste. Si le garde des Sceaux reconnaît des dysfonctionnements accablants, il exclut pour sa part de démissionner.
Jeanne d'Anglejean. Ce constat à présent, l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle a fait bondir la consommation électrique de Google à un niveau record l'an dernier. Le géant technologique a publié son bilan environnemental annuel il y a quelques jours et il reconnaît que ses émissions de CO2 ont augmenté de 18% sur un an. Une facture énergétique qui, depuis 2019, a été multipliée par 2,5. Igor Strauss.
Avec plus de 42 millions de mégawattheures absorbés par ses centres de calcul dédiés à l'intelligence artificielle, Google a consommé plus d'électricité que la Nouvelle-Zélande ou le Danemark en un an. La multinationale attribue cette envolée au développement de son intelligence artificielle et au boom du cloud, mais le développement simultané de YouTube et de ses services numériques, ainsi que le nombre croissant d'utilisateurs, sont également responsables de cette flambée de la consommation énergétique. Alors que d'un côté, l'empreinte carbone de l'entreprise a reculé de 2%, grâce à ses investissements dans les énergies renouvelables, elle a, de l'autre, augmenté de 25% en raison du déploiement de l'intelligence artificielle. Une asymétrie qui éloigne chaque année le géant californien de ses engagements climatiques pris en 2019. Mais Google n'est pas le seul concerné par cette dérive climatique. Amazon et d'autres géants de la tech y contribuent également et attisent le mécontentement d'une partie de l'opinion publique qui dénonce la consommation d'eau et l'accaparement des ressources énergétiques par ces centres de données.
Explication signé Igor Strauss. La page au sport et du tennis. Yannick Sinner décroche son 2e titre d'affilée à Wimbledon, son 5e sacre en Grand Chelem. L'Italien numéro 1 mondial a battu hier en 4-7 l'Allemand Alexander Zverev, le vainqueur de Roland Garros. Du cyclisme aussi avec le Tour de France, 9e étape hier et qui a été remportée par le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Le maillot jaune reste lui sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Journée de repos aujourd'hui sur la grande boucle. Relâche aussi au mondial de football en attendant la première demi-finale entre la France et l'Espagne, demain soir. Vous écoutez RFI, les 6h13 à Paris, 4h13 en temps universel.
RFI, toute l'actualité.
Fabrice Le Grillet.
Et à suivre sur la radio du Monde, retour sur le décès aux États-Unis du sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, ce week-end. Lui qui était notamment connu comme partisan d'un interventionnisme militaire américain affirmé en Iran notamment. Allié majeur de Donald Trump, les relations entre les deux hommes n'ont toutefois pas toujours été aussi fluides. Nous y reviendrons avec notre correspondante Loubna Anaki. La culture ensuite avec la pièce Mon frère qui se joue au Festival d'Avignon. Son metteur en scène François Gremaud raconte l'histoire de son frère Christian, sourd de naissance. Pièce émouvante sur l'inclusion. Tous deux seront les invités de Muriel Malouf. Enfin, le Conseil Santé, Caroline Paré et le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue et obstétricien à Dakar, se penchent ce matin sur les troubles du cycle menstruel. On reparle de la sécheresse qui sévit dans le monde et en Europe. Ce spectacle bien désolant autour des lacs de Hongrie. Leur niveau est au plus bas, en particulier celui du lac Velence, une destination très populaire dans ce pays qui n'a pas d'accès à la mer. On l'appelle le petit Balaton, à une quarantaine de kilomètres de Budapest. Il y a quelques années, les Hongrois venaient s'y baigner. Cette année, la sécheresse est sévère et il y a de façon générale de moins en moins de pluie et des étés de plus en plus chauds. Conséquence, le lac disparaît petit à petit et les effets sont déjà nettement visible sur l'économie et sur la biodiversité. Mais des solutions existent. Reportage Florence Labruyère.
Depuis le bord du lac, il faut marcher au moins 30 mètres pour avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. La seule manière de se rafraîchir pour Zoltan et ses deux enfants, Lila, 9 ans, et Arthur, 6 ans.
On ne peut pas nager, mais pour barboter avec les enfants, c'est parfait. Il y a beaucoup moins de touristes qu'avant. On croise surtout des gens qui habitent ici. Les habitudes changent et le lac change aussi.
Le niveau du lac Velence n'a jamais été aussi bas, observe Tom. Tomasz Felföldi, chercheur au Centre de recherche écologique de l'Académie des sciences de Hongrie.
Actuellement, le niveau de l'eau du lac Velence est de 44 cm. C'est un record historique. Normalement, il y a plus d'un mètre d'eau.
Make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. I can make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. I can't make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. Make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. I can't make love to the trees, to make love to the birds, to make love to them one by one.
We'll be right back.
sarai. Sorriditai come non mai.
Il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe Actif.
Principe Actif, le mix des cultures.
Oh!
j'ai commencé le peurin entre deux cours d'école. Que j'ai chopé la vibe hip-hop et que je la trouvais bonne. À l'époque, je lâchais des phases et je le faisais pour les potes. J'ai dû que Marine, qu'est-ce que tu paries que demain j'ouvre toutes les portes. J'ai 16 balais, je traîne le soir, je fais toi le jour de l'an. Mes compères savent, ils comprennent pas que je parle court chez langue. Je fais pas l'you voir parce que je veux pas que mon miroir se leurre. J'ai ça dans le sang, le rap et moi, c'est une histoire de cœur. T'as des freestyle en def, la face B coule à flot. Je m'en bats les yeux, je vais tout niquer comme le rat Luciano. Quand les mots parlent, la passion frappe, c'est dur de l'éviter. Il faut que je trouve un blast qui tape, j'ai m'appelé CIT. Avec mes potes, on fonce, on brûle le chronomètre. Sur mon PC, on fait des vieux sons, des morceaux de merde. Trembert pour nos proches, partout ça kick, qu'on est une bande de loups. Rassemble crew, réunissons nos forces, c'est la smalala. Vendredi soir en ville, pour fêter le volume à ma couille, on est là là. Chacun de mes équipiers pète les scores, c'est trop sale. Casteda, RIZ, FLO et Chonas. J'ai mordu sur ma chic jusqu'à cracher poussière. Premier j'ai un murmure, un cri à ciel ouvert. On prendra pas de risque, pas de risque. Et s'il faut vendre son âme pour vendre des disques, on vendra pas de disque. Trop peur de la perte que pour jurer sur la tête de ma mère. Partir en paix ou passer sa vie à faire de la merde. Le temps est assassin, ça me fait hier de l'admettre. J'ai pas changé le cours de l'histoire, mais je suis fier de la mienne. Trop peur de la perte que pour jurer sur la tête de ma mère. Partir en paix ou passer sa vie à faire de la merde. Devant le temps est assassin, ça me fait hier de l'admettre. J'ai pas changé le cours de l'histoire, mais je suis fier de la mienne.
Le rap a eu, je crois, j'avais 14 ans. Un sale qui est arrogant, en quête de la dé, je marche au vent. En secret, je me rappelle la Hollande. Je m'étais dit, je sens que ça tue. Qui est 21 avec Eiffel, on découvre dans ta rue. L'encre afflue sans la cunure, je fais ce que j'aime. J'étais ce mec rebelle. Échec scolaire, 3-4 rencontres et S2R secret. Le manque d'ambition pèse sur moi. On